Et maintenant, un bon boîte de cast.
Maintenant, un bon boîte de cast.
Bonjour à tous et à toutes. Voilà un podcast un peu différent cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une interview faite lors de la dernière soirée terrible le 12 septembre 2007, grâce à la venue de Olivier Warnier, un créateur de jeux qui a déjà pas mal de prototypes à son actif. Et j'étais ravi de l'accueillir, et ce pour deux choses. La première, de permettre à un créateur de jeux passionné de venir présenter son prototype à des joueurs, qu'ils soient néophytes ou expérimentés. Et d'une autre part, de montrer à des joueurs ce que c'est de prototyper un jeu, quelle est la démarche d'un créateur de jeu, quel est le matériel qu'il met en place et quelles sont les contraintes rencontrées par un créateur de jeu. Voilà, je vous laisse écouter l'interview qui s'est passée juste après la séance de prototypage. Ce podcast est orienté plus sur la création de jeu, c'est-à-dire la démarche d'Olivier Warnier dans son optique de création. À la suite de ce premier podcast, il y aura un deuxième podcast qui lui sera plus orienté sur la description du prototype que Olivier Warnier avait amené, à savoir le jeu Western Town. On s'attardera à la description, au thème du jeu, quel est le matériel qui a été mis en place. Mais pas trop vite, allons tout de suite écouter la première partie de l'interview. Bonne écoute. Donc voilà, je suis avec Olivier Warnier qui est venu avec beaucoup de gentillesse à notre dernière soirée terrible et qui est venu présenter son prototype. Est-ce qu'on peut parler de prototype ?
Oui, prototype.
Donc c'est un prototype qui s'appelle Western Town. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ton parcours et pourquoi est-ce que tu es venu à créer un jeu ?
Donc mon parcours, je peux débuter très très tôt dans ma vie puisque je suis un créateur depuis mes 10 ans environ. Je commençais déjà à trafiquer Monopoly puisque le jeu, le mécanisme ne me suffisait pas. Il fallait que j'invente des règles supplémentaires.
Je peux comprendre.
Pardon ?
Je peux comprendre.
Oui, c'est vrai. Et puis, donc j'ai commencé par le Monopoly. Puis après, j'ai embrayé sur un tas de jeux, notamment par exemple le fameux HeroQuest qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui, que j'ai complètement revu à ma sauce, mélangé avec d'anciens Donjons et Dragons pour jouer avec mes cousins et mes frères. Et toute cette passion créatrice, en fait, à un moment donné dans ma vie, je l'ai basculé vers l'informatique. Donc c'est devenu ma grande passion, j'ai fait plusieurs jeux sur ordinateur. Et très récemment, depuis à peu près 4 ans, je suis revenu sur une phase créative jeu de société, parce que je me suis remis dans le bain jeu de société avec l'avènement de Coulon Catan, etc. Et donc Western Town que je suis venu présenter aujourd'hui est mon deuxième prototype sur un total aujourd'hui de 3 voire 4 prototypes jouables que j'ai dans mes cartons.
Ok, et donc quels sont les prototypes que tu as fait avant et quelle est l'histoire qu'ont eu ces prototypes ? Parce qu'apparemment, donc Western Town, on le trouve décrit sur Trick Track, on le trouve décrit dans certains concours, il y a avec des échos assez positifs. Donc qu'est-il arrivé aux autres jeux ?
Donc le premier jeu que j'ai créé, c'était à Noël 2004, si je me souviens bien. C'est des amis qui sont venus chez moi avec un jeu qui est connu qui s'appelle La Crique des Pirates. Et j'ai joué à ce jeu-là et j'ai retrouvé une envie de jouer, mais il y avait plein de mécanismes qui ne m'allaient pas. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je me mettrais à créer des jeux de société, je m'y remettrais. Et j'ai donc créé un jeu qui s'appelle Pirates, vous mourrez, qui est mon premier prototype. Et qui était jouable, mais avec le recul aujourd'hui, c'est carrément un premier prototype qui est injouable en fait, invendable en tout cas. Donc j'ai fait ce premier prototype, j'ai embrayé sur d'autres idées, l'aspect western avec le fameux film Le Bon, le Brut et le Truand. Donc ça c'était le thème de western, donc je suis parti sur des mécanismes qui me plaisaient dans Colon de Catan, dans Puerto Rico et dans La Cita. J'ai édulcoré le tout, j'ai fabriqué une première version de Western Town il y a plus de 2 ans. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des tests, je suis arrivé sur une 12e version que j'ai mis en ligne sur Internet.
Oui, donc ça on le voit bien sur ton site Internet. D'ailleurs, le jeu de pirate dont tu parles, on en parle aussi sur un de tes deux sites. Si on prend le côté création de jeu, est-ce que tu pars d'une idée, d'un flash ? Certains auteurs partent d'une idée comme ça qu'ils ont, et puis ils collent un thème dessus, et d'autres auteurs partent d'un thème. Et puis, ils collent un mécanisme qui leur a plu. Par exemple, dans un autre jeu, ils font une compilation de ce qui leur a plu. Donc, est-ce que toi, tu es de quelle école es-tu, on va dire ?
D'accord. Donc, les deux écoles dont tu parles, c'est un peu l'école française et l'école allemande. L'école allemande, c'est j'ai un mécanisme et je vais coller un thème derrière qui rentre pas très bien. Moi, je suis plutôt de l'école française où, à partir d'un thème, il y a un thème qui me plaît. En fait, j'invente des sous-thèmes dans le thème. Et les sous-thèmes, je colle en face un mécanisme. Et après, l'alchimie doit faire que tous ces sous-thèmes et tous ces mécanismes s'imbriquent bien dans une homogénéité globale. Quoi.
Et donc, sans rentrer dans le détail encore de la création du jeu, qu'est-ce qui, toi, te donne l'impression qu'un jeu marche ? Donc, tu t'amènes avec ton prototype, tu as ton matériel, tu es super excité parce que tu as créé quelque chose, tu trouves ça génial, tu le présentes à des joueurs. Et quelle est la chose qui va te dire « Ok, là, c'est bon, je peux continuer » ou bien je rentre chez moi en me disant « Bon, ben, ce sera pour la prochaine. »
Donc, de façon systématique, avec toutes mes créations, c'est à chaque fois que je rentre chez moi avec mon proto sous le bras.
C'est souvent le cas.
À la première création, c'est toujours « Je pars avec cette fois-ci, ça va cartonner. »
Juste une anecdote pour moi. Donc, j'essayais aussi de créer 2-3 jeux. J'ai déjà eu des prototypes qui ont duré 1 minute. Donc...
Bienvenue au club. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les créateurs, ils se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent le webcast. Mais effectivement, à chaque fois, je sors mon proto et c'est la catastrophe. Moi-même, j'arrête la partie en disant il n'y a aucun fun, personne ne veut s'amuser, on arrête, je revois ma copie.
Si on part perdant, entre guillemets, en disant je me ramène avec des cartes blanches où j'ai écrit moi-même, et etc.
Il y a cette barrière-là déjà du prototype. Il faut tout de suite venir, à mon avis, il faut tout de suite venir. En tout cas, c'est mon état d'esprit avec un prototype qui est joli, sinon on a du mal de trouver des testeurs.
Alors justement, parlons-en. Donc, quel est le matériel qu'on peut trouver à l'heure actuelle pour faire un prototype qui donne envie de jouer?
Moi j'ai l'avantage en fait d'être un créatif dans le sens global du terme, c'est-à-dire que je sais aussi bien dessiner que faire des jeux de société ou utiliser l'outil informatique, c'est mon métier, donc j'ai cet avantage-là. Donc quand je fais un prototype, je passe déjà énormément de temps sur ordinateur à compiler des dessins, des images, à faire mes pions, mes cartes, etc. Et j'édite mon proto, donc derrière il faut simplement un peu de manipulation pour ne pas couper ses doigts au cutter. Donc un scalpel, mais pour couper le papier seulement, et puis une plastifieuse, et avec ça, patatras, on y va. Alors par contre, faut pas avoir peur d'user des feuilles et de tuer les cartouches d'imprimante, mais c'est justement cette philosophie-là, je suis en train de réfléchir à ça, c'est en train de devenir mature dans ma tête, et je pars sur une autre démarche complètement différente, qui est de dire, je vais créer mon jeu dans ma tête, premier prototype sur papier, je m'attelle à faire un prototypage purement informatique et je vais utiliser Vassal.
Est-ce que tu peux parler un peu de Vassal? Donc Vassal, tu en parles sur ton site, tu en parles aussi sur TrickTrack, puisque si on tape ton nom sur TrickTrack, on retrouve pas mal de discussions sur le forum où tu parles de la configuration de Vassal et de comment l'utiliser, comment est-ce qu'on configure le fait qu'un joueur reçoive des cartes, etc. Donc est-ce que tu peux expliquer en 10 secondes ce que c'est Vassal et qu'est-ce que ça a comme avantage?
Donc j'ai touché à Vassal une première fois il y a pas mal d'années, j'étais complètement rebuté parce que je ne comprenais rien. Je me dis bon, on va continuer sur ma version papier.
Donc Vassal, c'est un software en fait.
Donc Vassal, c'est quoi? C'est un software développé en Java pour ceux qui connaissent, donc qui est multiplateforme. Et le but de ce logiciel, c'est de simuler une table de jeu, tout simplement. Donc on va sur cette table de jeu déposer les éléments classiques d'un jeu de société, un plateau, utiliser des cartes, avoir des pions. Les cartes, avoir des faces dans un sens, dans un autre, etc. Tout est configurable. Il n'y a aucune intelligence, c'est ça la capacité de Vassal, il n'y a aucune intelligence qui va régir le jeu. Les joueurs peuvent tricher comme sur un vrai jeu. Si j'ai envie de chourer une carte tranquille, je fais. Donc c'est l'avantage, c'est qu'il est très souple. Donc on fait très vite un système de jeu et on peut le tester en ligne.
Donc c'est là que tu éprouves ton mécanisme de jeu, vu que le software n'est pas intelligent. Donc c'est ton mécanisme qui doit être intelligent.
Oui, donc on doit quand même rédiger les règles, avoir quelque chose qui tourne. On perd pas de temps à dire attention, si tel joueur fait ci, il faut faire ça dans le mécanisme. Les joueurs régissent eux-mêmes le jeu. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir un panel de testeurs sur l'internet, gagner du temps sur la préparation du jeu. Un seul clic suffit pour remettre toutes les pièces comme il faut. Donc je peux pas dire que je suis un expert de Vassal, parce que ça fait un mois que j'y touche, mais j'ai fait Western Town, cette version actuelle, sur Vassal.
Donc ça permet de venir sur ton site, il y a moyen d'aller télécharger la version Vassal de ton jeu pour faire connaissance avec le jeu, juste?
Exactement, c'est pas encore en ligne, mais c'est une idée de mettre en ligne ce module Vassal qu'on peut télécharger et avec Vassal jouer avec moi ou d'autres en ligne pour tester et prouver le prototype.
Ok, donc sans être péjoratif, créer un jeu dans sa cuisine, je veux dire, et de l'amener avec ses potes, l'amener à ses potes pour le tester, ça c'est une chose. Maintenant, quelle est la démarche que toi tu as eue pour justement finalement essayer d'éditer ton jeu, qu'il soit distribué?
La finalité, c'est pas vraiment d'être édité. En fait, c'est un rêve qui vient petit à petit en disant tiens, les amis avec qui je joue disent ton jeu, il est vraiment bien, quand est-ce que tu l'édites? Mais en fait, c'est une démarche bien plus compliquée et longue qu'on l'imagine quand on est du monde extérieur. Pour éditer un jeu, à mon avis, aujourd'hui, il y a quelques axes forts. L'un des axes, à mon avis, c'est de se faire connaître sur les salons, quelque chose que je fais pas encore aujourd'hui énormément. Cette année, je vais sur SN avec mon proto sous le bras, j'espère avoir l'occasion de le présenter à quelques éditeurs.
Et on s'y croisera, donc je recueillerai tes impressions à ce moment-là. Alors.
D'accord, on verra aussi.
Pas pour présenter un jeu, pour en tant que visiteur.
Après, il y a un deuxième axe qui est le formidable outil Internet qui permet de faire connaître son jeu. C'est l'axe que j'ai utilisé tout de suite. En partant de l'idée du créateur des Marchands d'Empire, qui avait mis en ligne son jeu et qui a fait un carton total. Donc moi j'ai mis Western sur Internet, téléchargeable, pour être fabriqué.
Donc voilà, donc ta démarche, c'est de voir si le jeu marche et de voir, bah, pourquoi pas, de tomber sur une possibilité d'édition. Ce serait pas mal, même si le jeu te plaît, ça peut quand même être une belle cerise sur le gâteau, en plus de ta démarche intellectuelle qui est de toute façon super chouette, quoi.
Ouais, en fait, quand j'ai commencé la démarche de création de jeux de société, j'avais même pas idée de me faire éditer. Après, j'ai eu cette idée qui commençait à venir, et je me suis dit, chouette, j'ai une occasion d'arrondir les fins de mois. Mais petit à petit, en comprenant le monde de l'édition, on se rend compte que c'est absolument pas un axe pour gagner de l'argent. Si je veux gagner de l'argent avec les jeux de société, il faut être éditeur, point. En étant créateur, on gagnera jamais rien. Donc par contre, tout l'aspect notoriété, si vous voulez, donc fierté d'avoir un jeu édité et avoir un beau matériel, puisque j'ai beau créer mon prototype, c'est quand même mieux quand c'est fait par un professionnel. C'est quelque chose de très motivant, et c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse énormément, de pouvoir éditer mes créations.
Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est très partagé, c'est le fait de créer un jeu de société, mais aussi de ce côté sensuel, de créer le matériel, de l'avoir entre les mains, et en plus d'arriver à un côté plus professionnel, effectivement, de voir enfin sa boîte. Je crois que c'est un bel aboutissement, même si c'est peut-être pas l'aboutissement ultime, enfin unique qu'on veut donner à la création de jeu.
Et voilà, donc je remercie Olivier Warnier pour sa présence lors de cette soirée terrible, et j'espère qu'il aura pris autant de plaisir que nous à le rencontrer. Et donc, à très bientôt. Et bonne écoute, et n'oubliez pas d'aller jouer, c'est très important.